Le festival Les Inouïs, qui s'est déroulé à Arras du 19 au 28 août, héberge en son sein une académie qui accueille chaque année des stagiaires. BFM cette année a couvert l'événement et avait installé son studio mobile à l'hôtel de Guine, où on a reçu quelques stagiaires pour parler de leur expérience et nous jouer des morceaux en live. L'altiste Jean-Christophe et le bassoniste Romain se sont prêtés au jeu de l'interview, tous deux accompagnés de Laurent Dollet, pianiste accompagnateur qui est également professeur de piano au Conservatoire d'Arras. On évoque avec eux leur parcours, leur stage à l'Académie des Inouïs et vous aurez également l'occasion de les entendre en live. On accueille donc Jean-Christophe qui est altiste, salut.
Salut.
Et on est Romain, bassoniste, salut.
Salut.
Donc vous êtes ici dans les studios pour nous parler un petit peu de votre stage au sein de l'académie, en même temps de votre instrument, et puis vous nous avez réservé une œuvre que vous allez jouer en live, donc on en parlera également. On va commencer par Jean-Christophe. Alors, altiste, donc, comment ça se passe pour toi au sein de l'académie? Est-ce que c'est la première fois d'ailleurs que tu viens sur ce stage dans le festival des Inouïs?
Alors, tout à fait. En fait, j'ai connu le stage en fait, parce que le prof que je suivais faisait le stage et c'est la première année, oui.
Tes impressions?
Alors, j'aime beaucoup. L'ambiance est très sympa. On peut faire avec de l'orchestre et aussi rencontrer d'autres musiciens et vraiment l'ambiance est très sympa.
Ok, donc toi tu es altiste, tu peux peut-être nous expliquer un peu pourquoi ce choix et puis depuis combien de temps, comment ça a commencé
Alors en fait j'ai commencé à l'âge de 9 ans et puis en fait l'alto c'est, ça ressemble vraiment à un violon, c'est un peu plus gros et un peu plus grave mais ça joue à peu près de la même façon et en fait tout petit j'ai voulu faire de l'alto parce que vraiment c'était le son qui me plaisait énormément. Pour les graves qu'il peut émettre en fait.
Est-ce que c'est difficile d'aborder un instrument comme ça? Est-ce que c'est beaucoup de travail?
Alors ouais, c'est beaucoup de travail pour la justesse, pour l'archer, pour tout ce qui est expressivité et en plus technique aussi, c'est vraiment un gros boulot. Il faut y consacrer vraiment du temps si on veut arriver à faire quelque chose de bien. Ouais.
Alors qu'est-ce qui est le plus dur selon toi dans l'apprentissage de l'instrument?
C'est difficile à dire parce qu'il faut les deux, mais entre technique et beau son, je pense qu'il faut d'abord le beau son. Parce que La technique, ça peut se travailler en fait tout seul, ça peut s'acquérir et le beau son vraiment c'est quelque chose qui nous appartient à nous et je pense que c'est ça le plus important.
Est-ce que tu t'es déjà produit dans des orchestres, en concert?
Alors oui, bien sûr. Donc je suis membre de l'orchestre du Conservatoire de Rouen. On a fait d'ailleurs l'année dernière une tournée en Chine, à Shanghai, à Ningbo. Donc on a pu faire 6 concerts où on s'est produit sur un programme de musique française qui était vraiment, vraiment extraordinaire. Et puis on a eu l'occasion aussi de se produire à Paris et puis dans la région normande. Quoi.
Alors la Chine, c'est quand même un sacré voyage. Comment t'as vécu ça? Comment réagit le public là-bas?
Alors le public en fait est très différent, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins sensibles à l'écoute vraiment des autres. En fait, ils ont plus, par exemple, ils se mettraient jamais en silence pour écouter. Il y a toujours un petit bruit de fond où ils parlent en fait pendant les concerts. Et vraiment, ils réagissent pas du tout de la même façon. En fait, ils applaudissent presque pas, par exemple. Et ouais, ils ont complètement une autre approche de la musique en fait.
Et pour toi, c'est perturbant ou...
Alors au début, c'est perturbant, c'est vrai, parce que quand on finit une pièce et qu'il y a 4-5 applaudissements et puis qu'après ça s'arrête, ça fait un peu bizarre parce qu'on se dit que...
On s'est pris un bide.
Voilà, c'est ça que la musique n'a pas très plu. Et puis en fait, après, on comprend et c'est juste un autre regard de public, quoi.
Et du coup, il y a certainement aussi des musiciens chinois qui sont venus vous voir. Mais comment est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger?
Oui. Du coup, on avait des étudiants chinois au conservatoire qui pouvaient du coup traduire. Et du coup, en fait, ça nous a permis d'échanger avec eux. Et en fait, ils ont une autre vraiment approche de la musique. Et ils adorent par contre la musique française. Ils nous l'ont dit, tout ce qui est Ravel, Debussy, Ducat, tout ça, ils adorent. Franchement, ouais. On était très contents.
T'as un compositeur préféré? Ou plusieurs? Parce que j'imagine que c'est pas simple la question que tu te poses.
Je dirais Vivaldi pour le baroque, et puis sinon, j'aime énormément Mendelssohn aussi.
Bon, j'imagine aussi que tu écoutes d'autres sortes de musique que la grande musique, musique classique, musique contemporaine.
Oui, bah oui, oui, j'écoute aussi un peu de pop, du reggae, j'aime bien aussi.
Et est-ce que tu essayes de transposer justement à l'alto, même si c'est pas, peut-être pas forcément évident, mais des morceaux modernes?
J'essaye, mais en fait, l'alto s'y prête pas vraiment. Mais oui, je joue des airs de chansons à l'alto qui me plaisent, oui.
Et est-ce que tu composes aussi également?
Alors oui, je compose pas vraiment, je fais de l'écriture en fait.
Ouais.
Et du coup, ça me permet vraiment de comprendre vraiment la musique d'une autre manière. Et aussi des questions d'interprétation, et franchement ça sert énormément, ouais.
Alors plus tard, est-ce que tu veux devenir un grand altiste? Est-ce que
j'aimerais bien en fait être altiste dans un orchestre, et c'est vraiment ça qui me plairait, ou alors faire de la musique de chambre aussi. J'aime
D'accord.
beaucoup l'esprit de groupe pour partager ensemble et avoir des approches différentes et les réunir. Je trouve ça extrêmement enrichissant en fait.
Ouais. Alors, tu parles de musique de chambre. Nous ici, on a reçu le trio Iris, qui était composé donc d'une altiste, Estelle Gourincha, ainsi que d'une flûtiste et d'une harpiste. C'est une formation donc qu'elles nous ont expliqué qui est assez récente, assez originale. Toi, c'est quoi ta formation préférée?
Ma formation préférée, c'est le quatuor à cordes, donc deux violons, un alto, un violoncelle. Et c'est vraiment pour moi la base de la musique, c'est-à-dire un accord avec du coup quatre sons, et vraiment pour moi c'est l'équilibre vraiment parfait pour la musique.
Ok, alors donc tu vas nous jouer une œuvre, tu peux nous en parler un peu?
Alors oui, ça s'appelle Les Marschenbilder, opus 113 de Robert Schumann. Marschenbilder, en fait, ce sont des contes de fées. Cette œuvre est découpée en quatre mouvements, donc un premier mouvement très allant et très très émouvant, je trouve. Un deuxième mouvement beaucoup plus martial, beaucoup plus guerrier, où on croit entendre le galop d'un cheval en fait pour les contes de fées, voilà. Un troisième mouvement du coup très agité, très tourmenté. Et là, je vais jouer le quatrième mouvement, qui est un mouvement très mélancolique et très apaisé. Thank you.
Et bien maintenant, autour du bassoniste Romain. Alors toi, pareil, un peu les mêmes questions. Depuis quand tu joues du basson? Quand est-ce que tu as commencé? Pourquoi tu as choisi cet instrument?
Ça va faire donc 10 ans que je fais du basson. J'ai commencé à la base par le basson français. J'en ai fait 5 ans. Et du coup, maintenant, ça fait 5 ans que je fais du basson allemand. Donc, comment j'ai découvert ça? C'est grâce à mes parents qui sont musiciens et qui m'ont fait, comme tout enfant au conservatoire, il y a des découvertes d'instruments. Et j'ai vu cet instrument et je suis vite tombé amoureux parce que c'est... Je suis assez fan du son grave. C'est vrai que quand on découvre cet instrument, on est vite attiré par le son grave. Et c'est ce que je voulais faire. Je faisais déjà un peu de violon en plus, donc je voulais pas refaire un instrument dans l'aigu. Donc voilà, le basson, j'ai découvert ça comme ça.
Alors tu parles de basson français et basson allemand. Qu'est-ce qui les différencie?
Le basson allemand a été créé après le basson français. Et la grande différence, c'est vrai qu'il y a une différence de doigté, une différence de prise en bouche et... On joue pas ça exactement pareil. Et le basson français est joué exclusivement en France, alors que le basson allemand, c'est assez international, vraiment. Et c'est vrai que le basson français, on va pas dire que c'est en train de disparaître, c'est pas le mot, mais c'est beaucoup moins fréquent que le basson allemand, qu'on va appeler le fagot, d'ailleurs.
Moi, je suis pas forcément un spécialiste du basson. À l'oreille, j'ai l'impression que le son ressemble un peu à celui du saxophone. Alors peut-être que je me trompe.
Disons que il y a quand même un rapport. Généralement, beaucoup de saxophonistes se mettent au basson. Il y a quand même un gros rapport, mais c'est vrai qu'on va pas dire que c'est la même chose non plus, parce que déjà le saxophone c'est hanche simple, donc on va souffler dans un roseau simple, alors que le basson c'est hanche double. C'est un roseau qu'on va plier en deux et ça va faire entre guillemets deux couches.
Alors c'est du roseau, hein, donc on va peut-être nous expliquer un peu comment c'est fait un basson, voilà, tout simplement.
C'est fait à la base, donc on va souffler dans ce qu'on appelle une hanche, ouais. Donc un morceau de roseau qu'on va fabriquer pour qu'il crée des vibrations, qui ensuite, cette hanche va emmener dans le bocal, qui va permettre de développer le son en quelque sorte, et puis après qui va emmener tout ça dans tout le basson et qui va faire vibrer l'instrument. Donc... C'est ça qui fait, comme c'est un instrument assez imposant, c'est ce qui fait qu'il est grave.
Il y a aussi une technique pour le souffle, la respiration. Comment ça se travaille? Est-ce que c'est compliqué, ça?
Oui, c'est compliqué, c'est comme tout. Ça se travaille quand même beaucoup, parce qu'on va avoir un problème, justement, d'air. Va falloir prendre suffisamment d'air, mais pas trop, parce que sinon on va avoir trop d'air. Et du coup, c'est un travail d'air qu'il va falloir vraiment... en prendre, mais sans en prendre vraiment beaucoup, parce que sinon on va devoir trouver un moyen pour en évacuer.
D'accord. Parce que du coup, il y a des parties longues et après des parties très courtes. Est-ce que c'est compliqué de passer l'un à l'autre pour la respiration?
C'est pas le plus compliqué, c'est vrai. C'est pas un instrument qui demande... Enfin, ça demande de l'air, mais pas plus qu'un instrument comme la trompette ou le cor. C'est vrai qu'on va souffler, mais on va pas évacuer énormément d'air. Après, l'air va falloir. Le plus important dans l'air qu'on va mettre, ça va être mettre beaucoup de pression avec le ventre, qui va faire qu'on va mettre de la vitesse d'air, en fait.
Comment ça s'entretient, ce genre d'instrument? Est-ce qu'il y a un entretien particulier, en termes de maintenance, on va dire, pour que l'instrument garde toute sa vivacité?
Oui, bien sûr, on va le nettoyer à chaque fois qu'on va finir de jouer, on va le nettoyer l'intérieur avec des chiffons. Ensuite, on va nettoyer, on va en prendre soin de l'extérieur, on va faire attention à toutes les clés, faut bien qu'elles soient serrées. C'est quand même notre instrument de travail. Donc,
les clés, ce sont donc ces mécanismes qui permettent d'accéder à des trous beaucoup plus éloignés que ce que permet normalement la main humaine. Est-ce qu'il y a des différences de clés entre le basson français et le basson allemand?
Oui, évidemment, c'est pas du tout les mêmes... On va pas avoir, enfin pas du tout, c'est pas le terme, mais on va pas avoir les mêmes doigtés. On va pas devoir mettre les mêmes doigts pour par exemple faire une note, pour faire un do, je saurais pas dire comment faire pour le basson français, mais c'est vrai que c'est assez différent par rapport à ça. Donc faut tout retravailler quand on change.
Ici à l'académie, le professeur fait du basson français ou du basson allemand?
C'est du fagot, donc du basson allemand.
D'accord. Et vous êtes tous dans la classe à faire du basson allemand ?
Non, il y a Natacha qui, elle, fait justement du basson français. Et elle vient là après le professeur Jean-François Duquesnoy. Lui, il a fait pendant de nombreuses années du basson français. Donc, il sait très bien comment ça marche. C'est pas un problème. Donc, il peut très bien lui donner des conseils pour le basson français.
Alors, et toi, comment ça se passe, ton stage donc, au sein du festival ? Est-ce que c'est la première fois aussi ?
Oui, c'est la première fois que je viens au stage. J'en ai entendu parler grâce au prof, donc Jean-François Duquesnoy, qui m'a proposé de venir parce que c'est vrai que j'avais besoin de faire une académie, un stage, pour faire vraiment sérieusement du basson. Et c'est vrai que là, depuis 5 jours, on fait du basson matin, après-midi. C'est vraiment super sympa.
Et c'est beaucoup d'entraînement par jour. Combien en heures, ça représente quoi par semaine éventuellement pour devenir un joueur aguerri, on va dire ?
Ça, tout dépend des personnes. Moi, je sais que j'ai un manque de temps des fois dans la semaine, là, dans l'année. Mais c'est vrai que je suis à peu près environ une moyenne de 2 heures par jour. C'est pas si énorme que ça.
Ok, pareil, hein, toi, est-ce que tu en veux en faire ton métier, devenir musicien professionnel ?
J'envisage d'en faire mon métier, oui, complètement. Mais après, c'est vrai que je fais aussi un peu de lumière j'aimerais principalement être dans la création de lumière dans le lyrique. C'est ce que je fais un peu à côté. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Je fais du basson depuis toujours, donc je me dis pourquoi pas en faire mon métier, pourquoi pas en... Voilà, et donc en même temps, j'ai envie de faire de la lumière, mais c'est compliqué. C'est assez compliqué de choisir. Pourquoi pas faire les deux, mais ça demanderait vraiment beaucoup plus de temps. Et donc je suis encore en train de réfléchir et on verra bien.
Enfin, toi, qu'est-ce que tu écoutes comme musique, à part évidemment ce que tu travailles, mais aussi la musique classique, grande musique, musique contemporaine ?
J'écoute de tout. J'ai pas... Dans tout, il y a des choses que j'aime et il y a des choses que j'aime moins, même dans le classique. Donc vraiment, j'écoute un peu de tout.
Donc tu vas nous jouer également une œuvre, tu peux nous en parler un peu ?
Donc, je vais vous jouer le premier mouvement de la sonate de Saint-Saëns pour basson et piano. Du coup, c'est vraiment une œuvre phare pour les bassonistes. Et, elle est demandée au concours d'entrée pour les conservatoires supérieurs. Enfin, c'est quelque chose d'assez... Elle est faite en 4 mouvements, du coup. Donc premier mouvement lent, donc celui que je vais vous jouer. Deuxième mouvement un peu plus vif, un peu plus rapide. Troisième mouvement pareil, qui est assez posé, qui est très fatigant d'ailleurs, mais assez lent. Et le quatrième mouvement qui est collé au troisième mouvement, qui lui va être assez vif aussi également. Donc c'est une alternance de comportements.
Ok, eh ben on écoute ça tout de suite.
Thank you.
Et on se retrouve avec Laurent Dollet.
Bonjour.
Alors Laurent, c'est un peu le musicien de l'ombre, puisque tu es pianiste accompagnateur.
Oui, exactement. Et j'aime bien ce terme musicien de l'ombre, parce que ça a beaucoup changé, mais pendant très longtemps, c'était un rôle un peu ingrat que d'être pianiste accompagnateur, alors que c'est un métier formidable.
Donc c'est toi qui as accompagné Jean-Christophe et Romain sur les deux morceaux qu'on vient d'entendre. Tu es également le pianiste accompagnateur de toute l'académie.
Je ne suis pas tout seul, on est deux avec Jennifer à s'être réparti l'ensemble des stagiaires.
Et tu es aussi un pianiste accompagnateur au Conservatoire d'Arras.
Voilà, c'est ça.
Donc, en plus d'enseigner le piano.
Exactement.
Donc parlons un peu de ce rôle, comment est-ce qu'on aborde une œuvre lorsqu'on doit avant tout faire travailler l'instrument qui est avec nous.
Tout d'abord, le pianiste accompagnateur, c'est un pianiste polyvalent. En fait, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est censé s'adapter très rapidement à des situations qui peuvent être très, très différentes. Ça peut être déchiffrer une partition de répertoire très, très différent. Ça peut être harmoniser une mélodie, improviser ou bien même des fois carrément réduire une partition d'orchestre toujours en live. Et là, donc du coup, je travaille avec les étudiants et donc je les rencontre. Pour la première fois, pour certains, je travaille cette année avec les violonistes, les bassonistes, clarinettistes, et j'en oublie certains, violoncellistes. Et du coup, moi, mon rôle là-dedans, c'est, comme je ne sais pas jouer du basson, je ne sais pas jouer de la clarinette, eh ben, on ne parle pas de ça, on parle musique, et j'essaye, tout en travaillant avec leurs professeurs, puisqu'on est en binôme, de travailler dans ce prolongement quand je les vois tout seuls, et... De les éveiller effectivement à l'écoute harmonique, l'écoute rythmique, et leur permettre de concrétiser leur projet. Alors là, c'était effectivement de restituer, de jouer aujourd'hui. Et pour cela, on a plusieurs biais. On travaille énormément sur l'écoute. Et on essaye de faire en sorte de les faire mieux jouer. C'est-à-dire qu'on se met à leur service, tout en les aidant, en leur donnant des clés, et puis en les aidant aussi à se questionner sur leur travail, sur ce qu'ils veulent en faire. Est-ce qu'ils sont vraiment certains de ce qu'ils font, de le comprendre, des fois de le formuler aussi. Et du coup, effectivement, j'espère pouvoir, le peu de temps que je les rencontre, les aider à aboutir quelque chose et puis à voir aussi la musique de façon beaucoup plus globale que quand ils travaillent seuls leur pièce. Et puis après, ils arrivent avec le piano et bien souvent, je leur dis, oui, voilà, la musique, elle est écrite non pas seulement pour basson, mais pour basson et piano. Et là, on travaille et le travail commence.
Il y a une notion de partage aussi, en même temps, d'être avec des gens qui jouent d'un instrument différent. Est-ce que, éventuellement, les étudiants, les stagiaires, t'apprennent aussi des choses quand tu les accompagnes?
Moi, il me semble que le terme accompagnement est étymologiquement, ça veut dire le partage. Voilà. Donc évidemment, on a une relation différente que celle que peut avoir l'enseignant avec le stagiaire. Moi, je considère qu'on est en équipe, et donc du coup, je leur fais profiter de tout ce que je peux leur apporter, mais eux aussi m'apportent énormément, puisque quand ils arrivent, il y a des étudiants, ils savent très bien ce qu'ils veulent, et ils m'aident des fois à voir les œuvres autrement, à les découvrir. Donc oui, c'est un partage mutuel.
En parlant de partage, avec quel instrument tu préfères partager? Quel est ton instrument chouchou?
Je ne voudrais pas fâcher les autres, mais j'ai un faible particulier pour le timbre du violoncelle. Alors j'aime tous les instruments et je travaille avec tous les instruments, mais je les vois qui me font des petits yeux là. Mais j'ai vraiment c'est-à-dire que si j'avais le courage de commencer un autre instrument, je crois que ce serait le violoncelle. Parce que voilà, le timbre qui se rapproche énormément de la voix humaine, voilà, on parlait du grave tout à l'heure, je trouve ça tellement chaleureux, tellement sensuel que j'ai vraiment un faible pour le violoncelle. Alors ça ne veut pas obligatoirement dire que je préfère tout le temps jouer avec eux, mais c'est vrai que je prends énormément de plaisir à accompagner des instruments qui ont des timbres chauds. C'est vrai que là, cette année, oui, j'ai fait les violons aussi, donc j'ai pas fait que des timbres graves.
Pianiste accompagnateur sur le festival, au conservatoire également. Est-ce que toi aussi, tu t'es lancé éventuellement dans la composition? Tu t'es produit en concert avec
des orchestres? Je ne compose pas, mais parallèlement, vous l'aviez dit tout à l'heure, j'enseigne le piano. Et donc, je suis pianiste. Vous savez que le compositeur, c'est un pianiste polyvalent. Donc, je joue aussi en piano. Je joue en formation de musique de chambre. Là, en ce moment, je suis en train de préparer un récital piano seul autour des sonates de Beethoven. Donc, on se restreint pas quand on est pianiste accompagnateur. Maintenant, la composition, là, c'est vraiment quelque chose de différent. Et je tâtonne, mais je pourrais à aucun moment vous affirmer que j'ai composé quelque chose véritablement.
Ça représente combien de temps sur l'académie, sur une journée, ce travail de pianiste accompagnateur ?
C'est énorme, c'est pour ça qu'il faut aimer ça. C'est-à-dire que quand les stagiaires arrivent, ils arrivent avec leur partition. C'est-à-dire qu'on les découvre. On découvre les stagiaires en même temps que le répertoire qu'ils vont préparer. Donc nous, on doit jongler avec Jennifer. En même temps, il faut qu'on travaille avec les professeurs. Il faut qu'on travaille nous-mêmes les partitions, parce qu'il y a des partitions qui se lisent très bien et puis d'autres qui nous demandent un peu plus de travail. Et en plus, les séances de travail avec l'élève. Donc, on commence tôt le matin et on essaye de finir avant le soir, mais ça fait vraiment des journées énormes. Mais comme le disait tout à l'heure, les étudiants, il y a une tellement bonne ambiance. On baigne vraiment, tout le monde parle la même langue. C'est extraordinaire. Donc, on ne voit pas le temps passer.
Le conservatoire, donc, j'imagine qu'il y a beaucoup d'élèves. C'est vrai que sans vouloir avoir de préjugés, on peut penser aussi peut-être un peu que la grande musique, hein, la musique classique, la musique contemporaine n'est pas toujours accessible à tous les publics. Toi, en tant que professeur et pianiste accompagnateur, comment tu vois ça ? Est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir convaincre des gens, justement, que cette musique, elle est accessible, finalement ?
Alors, je pense en être un bon exemple, dans le sens où je ne suis pas issu d'une famille de musiciens du tout. Et quand j'étais enfant, j'ai commencé le piano assez tard, d'ailleurs, parce que 8 ans ou 9 ans, ça peut paraître assez tard pour le piano. Ça me fait rire aujourd'hui, mais j'écoutais Chopin et du rap. Voilà, c'était ça, parce que et j'ai toujours aimé en fait tous les styles de musique. Donc, effectivement, il y a toujours une difficulté à rentrer dans certaines musiques parce que on imagine qu'il faut être initié pour comprendre certaines musiques. Et donc, moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de concerts aujourd'hui qui permettent aux gens d'entendre des musiques qui sont dites plus faciles à aborder pour les emmener justement écouter des choses qui demandent un peu plus. Mais vous savez, c'est pareil pour toutes les musiques, hein, le jazz, le rock, il y a les standards et puis il y a des choses, il faut s'y connaître un petit peu plus. Mais on essaye au conservatoire au maximum d'aller vers les gens qui n'ont pas toujours accès à ce genre de musique. C'est un combat de tous les jours, c'est ce qu'on fait, c'est notre objectif premier. Hein. Parce que il y a des gens qui viennent tout seuls à nous et puis il y a des gens qui ne viennent pas, donc on essaye d'aller les intéresser. Il y a énormément de choses, notamment au niveau de la ville d'Arras et du conservatoire, qui sont organisées dans ce sens-là. On sensibilise énormément dans les écoles, dans les quartiers. Voilà. On n'a certainement pas autant de résultats qu'on aimerait en avoir, mais il y a vraiment une volonté, encore plus aujourd'hui qu'avant, de faire en sorte que la musique soit accessible à tous.
On était en compagnie de Jean-Christophe, altiste, et Romain, bassoniste, tous deux stagiaires à l'Académie des Inouïs que propose chaque année l'association Musique en Roue Libre, et également de Laurent Dolé, leur pianiste accompagnateur. Interview réalisée avec l'aide de Damien, bénévole de l'association, dans le cadre du festival Les Inouïs qui s'est déroulé du 19 au 28 août dernier.